Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, à Katowice, en Pologne, la dernière conférence internationale sur le climat était organisée dans une mine de charbon désaffectée. Ce devait être le symbole d'une époque révolue, celle où le charbon représentait la principale source d'énergie qui propulsa nos pays dans la révolution industrielle et nourrit la glorieuse et cruelle épopée des travailleurs de la mine. En fait, cette COP24 fut une caricature riche en fausses promesses et ambitions déçues. Depuis, les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie sont tombés. L'électricité à base de charbon a beau produire 45% du carbone rejeté dans l'atmosphère, la consommation mondiale est repartie à la hausse. Comment s'explique aujourd'hui cette addiction au charbon? Quelle est sa géographie? En Europe, plusieurs pays, dont la France, se sont engagés à renoncer aux centrales au charbon, mais l'Allemagne continue. Pourquoi? Aux États-Unis, Donald Trump avait fait campagne en promettant la résurrection des exploitations. Où en est-on? C'est en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est que se situent désormais les plus gros producteurs et les consommateurs les plus voraces. Quel impact sur les populations? Comment exiger de ces économies émergentes qu'elles renoncent aux moyens de développement qu'on a vus à l'œuvre dans nos propres pays? Les énergies renouvelables sont-elles devenues compétitives pour tous? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Patrice Geoffron, bonjour. Vous enseignez les sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, où vous dirigez le Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Jean-Baptiste Fressoz, merci d'être avec nous. Vous êtes historien des sciences, des techniques et de l'environnement, chercheur au CNRS, et vous enseignez à l'EHESS. Par téléphone avec nous depuis Nancy, Michel Dehé, géographe, professeur à l'Université de Lorraine, et Lola Valéjo, qui dirige le programme climat de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Patrice Geoffron, donnez-nous une leçon de géographie d'abord. Quels sont aujourd'hui les plus gros producteurs et les plus gros consommateurs de charbon dans le monde?
Tout d'abord, si on doit partager un ordre de grandeur plus global encore, avant d'entrer dans des considérations de nature régionale, 7 500 millions de tonnes de charbon ont été consommées en 2017. On n'a pas des chiffres définitifs pour 2018, mais qui devraient être également en croissance et faisant suite à un rebond qui était intervenu en 2017. Et donc derrière tout ça, on a finalement des règles qui sont assez simples et qui sont que le retour de la croissance économique au niveau mondial, on ne sait pas ce qu'il en sera dans les années à venir, mais en tout cas pour les années qui sont derrière nous, a contribué à tirer cette croissance. Et puis derrière cette croissance, on a également des facteurs qui eux-mêmes sont assez classiques, qui sont la montée des classes moyennes, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est. Et puis par ailleurs, pour les pays qui ont pris des engagements dans le cadre de l'accord de Paris et qui ont vocation à être volontaristes, on peut penser à la Chine.
Leurs efforts vont prendre... Ce qui est contre-intuitif, hein, parce qu'on voit évidemment que la Chine continue de produire et de consommer, mais alors, probablement moins vite que la croissance.
Continue de produire et de consommer, mais moins vite que sa croissance économique. Mais elle s'est mise de toute façon sous l'obligation impérieuse de modifier son modèle, parce que un des enjeux, et c'est une des caractéristiques du charbon, c'est à la fois d'émettre des externalités, des pollutions globales avec le CO2, et donc d'induire la problématique du changement climatique, mais également et centralement en fait des pollutions locales qui ont totalement pollué l'air des grandes métropoles asiatiques, New Delhi, Shanghai, Pékin étant parmi les villes les plus polluées du monde. Et d'ailleurs, il est intéressant d'observer que le type de pollution qu'on y rencontre, je passe sous le contrôle de mon collègue historien, n'est sans doute pas très différent de celui qui était observé dans la Londres de Dickens au XIXe siècle, avec un recours assez intensif au charbon, dans ma compréhension à cette époque.
Si on s'intéresse maintenant à l'Europe, là, la situation est très contrastée, puisqu'on a vu que la Pologne en particulier, donc pays hôte de cette dernière conférence, elle a lancé un nouveau programme de centrales au charbon.
Oui, alors la situation est contrastée. Enfin, faut imaginer l'Europe comme une espèce de camembert qu'on va déjà couper en deux. Et donc, à peu près la moitié des pays européens ont pris des engagements de sortie du charbon. Pour certains, la France, la marche à franchir est assez limitée puisqu'on est à peine à 2% de la production électrique. Mais néanmoins, on voit les difficultés autour des sites à reconvertir et les difficultés sociales qui vont accompagner ces reconversions. Si on considère un deuxième quart auquel appartient l'Allemagne, des discussions sont en cours sur les modalités et l'horizon de sortie du charbon. Et puis, pour différentes raisons, et on va trouver la Pologne dans ce dernier quart, on a un dernier quart d'irréductibles qui refuse d'engager une discussion en ce sens. Tout ça s'expliquant par différentes considérations de nature sociale, mais également de nature géopolitique pour ce qui est de la Pologne.
De sécurité d'approvisionnement.
La proximité, évidemment, avec la Russie et les relations historiques très compliquées entre la Russie et la Pologne ne concourt pas à s'engager dans cette voie de manière volontariste.
De façon à ne pas dépendre des importations de gaz russe en particulier.
Précisément, c'est un des termes du débat intérieur.
Alors l'Allemagne, parlons-en avec vous, Michel Dehé. Merci encore une fois d'être avec nous de Nancy. L'Allemagne, si j'ai bien compris, représente à peu près un tiers des capacités de centrales au charbon en Europe, c'est ça?
Bon, c'est une part, oui, effectivement, très importante parce que environ, encore aujourd'hui, 40% de la production d'électricité en Allemagne est fournie par le charbon et le lignite, hein, qui est une sorte de charbon à faible pouvoir calorifique.
Et donc, comment s'explique cette part majeure du charbon dans l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne?
C'est un héritage, en fait, de l'époque où l'Allemagne utilisait d'ailleurs beaucoup plus de charbon, évidemment, que maintenant, puisque la dernière mine de charbon a fermé en décembre 2018. Par contre, le lignite est toujours produit en grande abondance. Et donc, traditionnellement, l'Allemagne depuis très longtemps, utilisé beaucoup de charbon pour produire de l'électricité. La part a baissé depuis notamment, ça s'est beaucoup accéléré après la réunification allemande en 1990. Notamment, d'ailleurs, c'est surtout le lignite qui a beaucoup baissé, mais aussi le charbon en Allemagne de l'Ouest. Néanmoins, pour l'équilibre du système de production d'électricité, jusqu'à aujourd'hui, la part du charbon, finalement, reste très importante. Et d'ailleurs, depuis pratiquement le début des années 2000, n'a pratiquement pas baissé, d'autant plus que, finalement, pour la transition énergétique en Allemagne, ce qui a été jugé prioritaire, c'est la sortie du nucléaire, comme chacun sait.
Donc ça, c'était un engagement de Madame Merkel vis-à-vis de ses alliés verts écologistes de l'époque, dans la coalition de l'époque.
Voilà, tout à fait. C'était en fait à l'époque du gouvernement Schröder, de la coalition rouge-verte. Donc il avait été acté, évidemment, de sortir du nucléaire, prioritairement. Et puis finalement, après d'ailleurs un certain nombre de tergiversations, après Fukushima en particulier, ça a été, j'allais dire, définitivement acté, et notamment pour 2022.
Le gouvernement allemand a réuni une commission à laquelle il a demandé un avis sur quoi exactement, sur une manière de décroître parce que le système, ça a l'air, comment dire, très confus pour une fois, la situation énergétique en Allemagne.
Oui, alors il faut replacer ça dans le contexte en fait donc de la suite des élections de 2017 où finalement donc la coalition entre la CDU et la SPD a été en quelque sorte reconduite et il est apparu que l'un des objectifs en fait de la transition énergétique allemande, c'est quand même finalement de baisser malgré tout les émissions de CO2. Il y a même un objectif qui a été fixé pour 2020 de les baisser de 40%. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui que c'est un objectif qui ne sera pas atteint, puisque, grosso modo, en 2017, on avait réussi quand même à les baisser de 28% par rapport à 1990, mais il ne sera pas possible de l'atteindre. Donc c'est un peu dans ce contexte où la pression aussi des ONG environnementalistes que le gouvernement allemand a mis en place donc cette fameuse commission, alors qui s'appelle d'ailleurs la commission, si on traduit en allemand, pour la croissance, le changement structurel et l'emploi, alors qu'on appelle en fait souvent la commission du charbon, qui est composée d'une trentaine de membres, où vous trouvez des personnalités politiques, des syndicalistes, des représentants de l'industrie, des scientifiques, des représentants d'ONG environnementalistes. Et cette commission a commencé ses travaux en juin 2018 et doit rendre un avis, effectivement, grosso modo, sur l'avenir des centrales à lignite et à charbon, et serait censé, en quelque sorte, donner un calendrier de, on pense, hein, de fermeture des centrales. Alors, une particularité, c'est que elle devait rendre son avis en décembre 2018, c'est-à-dire, finalement, pour la COP de Katowice. Et on a appris au dernier moment que ça serait repoussé à début février 2019. Donc en fait, on ne sait pas trop exactement sur quoi, enfin ce qu'elle va donner comme avis. Et les ONG environnementalistes, évidemment, demandent à ce que, grosso modo, on annonce une sortie, enfin une fermeture du, grosso modo, du charbon pour 2030, ce qui paraît quand même très peu vraisemblable, étant donné l'importance finalement que conserve le charbon et le lignite dans la production d'électricité.
Jean-Baptiste Fressoz, pour l'historien des sciences et des techniques que vous êtes, la fermeture de cette dernière mine de charbon dans la Ruhr, donc ça c'était il y a quelques semaines, c'était à la mi-décembre, on a vu à ce moment-là à quel point, évidemment, pour dans la culture et dans la mémoire historique allemande, ça a été un moment très symbolique quand on se souvient évidemment du rôle du charbon et de l'acier dans l'ascension de l'empire allemand et après les deux guerres mondiales, la puissance de l'industrie allemande qui trouve ses fondements.
Mmh, tout à fait. Disons que le charbon devient vraiment central dans les économies industrielles européennes seulement à la fin du 19e siècle. Je crois qu'il faut pas non plus penser que le charbon est le carburant de ce qu'on appelle la révolution industrielle. Ça, c'est plutôt des recherches récentes en histoire qui montrent bien à quel point la croissance économique au 19e siècle, à part pour le cas d'Angleterre qui est assez spécifique, et le cas sans doute de la Ruhr à la fin du 19e siècle, la croissance économique repose surtout sur des énergies renouvelables, jusqu'à assez tard en fait, jusqu'à la fin du 19e siècle.
Mais le charbon existe déjà au 18e siècle.
Ah, le charbon, on l'utilise depuis très longtemps pour se chauffer en Angleterre au 13e siècle. On utilise déjà le charbon qu'on appelle le sea coal parce qu'il vient de la mer jusqu'à Londres pour chauffer les foyers domestiques en Angleterre. Mais disons que l'usage industriel du charbon pour faire tourner des machines à vapeur, ça semble être, disons, vraiment le cœur de la révolution industrielle au 19e siècle. Et ce que les historiens montrent, c'est qu'en fait, l'énergie hydraulique, par exemple, était dominante jusqu'à assez tard dans le 19e siècle. Aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, c'est encore les deux tiers de l'énergie industrielle qui provient de l'hydraulique. Même en Angleterre, dans les années 1830, les métiers à tisser qu'on imagine être alimentés par des machines à vapeur, non, c'est par des moulins, en fait, des moulins à eau. C'est assez tard, finalement, que vraiment le choix évident du charbon se fait.
Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une... plutôt que de passer d'un cycle à l'autre, il y a une superposition,
exactement,
en quelque sorte, des moyens, enfin, ou des énergies qu'on utilise.
C'est ce point-là historique qui est très important et qui explique pourquoi c'est très difficile de faire une transition énergétique et c'est très difficile de sortir du charbon. C'est qu'en fait, historiquement, on a une vision sans doute trompeuse de l'histoire des techniques où un système technique remplace un autre. Mais si on regarde l'histoire de l'énergie, en fait, on passe pas, mettons du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du pétrole, au nucléaire, aux éoliennes, à ce que vous voulez. Mais en fait, on fait que additionner ces sources d'énergie les unes sur les autres. Par exemple, de l'acier en France, on le fait encore massivement au bois dans les années 1860. C'est seulement à la fin du 19e siècle que le charbon devient l'énergie essentielle pour faire de l'acier. En Suède, encore en 1960, on fait de l'acier au bois, en fait. Donc voilà, c'est vraiment, faut passer d'une vision des techniques phasistes, où on passe d'un système technique à un autre, à une vision des techniques où les choses s'additionnent les unes sur les autres pour comprendre pourquoi c'est si difficile de faire cette fameuse transition énergétique.
Néanmoins, le charbon a joué un rôle tout à fait prééminent dans l'histoire sociale de nos pays.
Oui.
La naissance des syndicats, les grandes luttes, les lois sociales, etc.
Tout à fait. Bah, c'est pour ça sans doute que le charbon a une place culturelle aussi importante, une place politique aussi importante au XXe siècle. C'est que à la fin du XIXe siècle, au moment où le charbon devient vraiment central dans les économies industrielles, les syndicats de mineurs ont un pouvoir énorme, en fait, parce qu'une grève générale dans les mines, ça bloque toute l'économie, en fait. Et donc, c'est aussi à ce moment-là qu'effectivement, il y a des grandes avancées sociales. Pensez au suffrage universel masculin, aux lois d'assurance sociale, aux lois sur les accidents du travail. Tout ça, ça date de ce moment-là. Et c'est un moment aussi où il y a donc une forte conflictuosité sociale, beaucoup de grèves. Et ça, c'est intéressant, c'est de voir que le charbon est sans doute une énergie qui a favorisé une démocratie de masse à la fin du 19e siècle, et que le pétrole peut aussi être lu comme une manière de contourner ce pouvoir syndicaliste sur l'énergie qui était, après la Seconde Guerre mondiale, très clairement lié au Parti communiste et donc à l'Union soviétique. C'était un vrai problème pour la géopolitique américaine de cette époque.
Donc le pétrole que l'on découvre en quelque sorte entre les deux guerres et dont on exploite véritablement... Ouais. Avec une exploitation qui commence véritablement dans les années 50 et qui prend son envol avec ce qu'on a appelé, nous, la crise des années 70.
Et le point qui est bizarre, c'est que le pétrole à énergie constante coûte beaucoup plus cher que le charbon. En particulier en Europe de l'Ouest, où on n'a pas de gisement pétrolier, on est obligé de tout importer du Moyen-Orient. Et pour autant, le pétrole va s'imposer comme l'énergie dominante dans la seconde moitié du XXe siècle. Ce qui veut bien dire aussi qu'il n'y a pas que des raisons économico-techniques dans ces choix énergétiques et qu'il y a un fondement extrêmement géopolitique, c'est une émission de géopolitique, des fondements géopolitiques et des choix énergétiques qui sont aussi des choix politiques.
Patrice Geoffond, pour en revenir au charbon, dans la manière dont un certain nombre de pays, une grande majorité de pays, se sont prononcés donc au moment des accords de Paris, sur une base donc volontaire, comment peut-on caractériser, est-ce qu'il y a une sorte de découplage en quelque sorte entre groupes de pays, soit entre les différentes manières de décrocher ou de s'engager à décrocher du charbon?
Alors, si on veut observer une forme de césure, il y en a déjà une entre les pays qui, dans leurs engagements, ont fait apparaître la volonté de mettre en avant du charbon propre, c'est-à-dire du charbon dont les émissions sont susceptibles d'être capturées, d'être enfouies sous terre, selon des dispositifs qui sont très complexes, qui sont très coûteux aujourd'hui, et qui sont de fait assez peu expérimentés. Mais lorsque vous allez regarder les engagements qui ont été déposés à la COP21 par les États-Unis, par la Chine, par le Japon, on trouve ce type de technologies qui apparaissent parmi les engagements. Ce qui est une manière de dire que pour ces pays, la problématique n'est pas nécessairement la sortie absolue du charbon, mais le fait de réduire l'empreinte environnementale du charbon. De fait, ça n'est pas nécessairement ce qu'on observe. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec la décrue du charbon qui est en cours et qui se poursuit, malgré les engagements de Donald Trump, c'est un phénomène de substitution entre le charbon et le gaz qui est en train de se prolonger. C'est-à-dire qu'à partir de là, on se retrouve finalement dans un débat intérieur aux États-Unis entre des capitaux américains les uns avec les autres, des travailleurs américains les uns contre les autres éventuellement, et donc il est assez difficile de renvoyer, en l'occurrence, comme a tenté de le faire Donald Trump, à une opposition entre les énergies carbonées et les énergies non carbonées. De fait, pour l'essentiel, on a cette concurrence qu'on observe depuis une bonne dizaine d'années maintenant aux États-Unis entre le charbon et le gaz, et donc ce gaz américain qui, pour l'essentiel, aussi. Est du gaz de...
Pardon ? Qui est très polluant lui aussi.
Qui est polluant également d'autres manières, vient se substituer au... au charbon, en étant moins coûteux et sensiblement moins coûteux. Et d'ailleurs, il y a un résultat assez paradoxal qui a été diffusé tout récemment. L'année 2018 sera probablement, après 2015, l'année durant laquelle le plus de centrales à charbon auront été fermées aux États-Unis. Donc symboliquement, c'est une manière de montrer les limites de la politique de Donald Trump dans la volonté de remettre sur le trône le roi charbon. C'est une politique dont on observe d'ores et déjà les limitations.
Néanmoins, l'Agence de protection de l'environnement américaine, que Donald Trump voulait supprimer, mais finalement il n'a pas supprimé, il a simplement nommé à sa tête, si j'ai bien compris, un ancien lobbyiste de l'industrie du charbon américaine. Et là, il y aurait une nouvelle réglementation qui, encore une fois, mettrait fin aux mesures prises par l'administration Obama concernant, si j'ai bien compris, les émissions de mercure. Et les critères seraient en quelque sorte assouplis et il y aurait moins de contrôle de ce type de pollution aux dépens, bien sûr, de la santé publique.
De manière générale, ce qu'on observe aux États-Unis depuis l'arrivée de Donald Trump, c'est le fait de relâcher toutes les contraintes environnementales. On l'observe en matière de production d'électricité au charbon, on l'observe également pour ce qui est de l'accès, par exemple, aux terres fédérales pour l'extraction de pétrole et de gaz. Après, il y a une difficulté tout de même dans ces industries qui est que si la volonté, c'est de relancer un cycle d'investissement, on est quand même en présence d'investissements qui vont se rentabiliser sur un demi-siècle. Et donc, dans le pire ou le meilleur des cas, Donald Trump est encore là pour jusqu'à la fin de son mandat, peut-être pour un deuxième mandat, mais le fait d'offrir des perspectives longues pour un nouveau cycle d'investissement, c'est tout de même beaucoup plus difficile. Et il n'en reste pas moins qu'en dépit des efforts auxquels vous venez de faire référence, la concurrence avec le gaz américain est une concurrence qui est féroce. Et par définition, il est très difficile d'ériger les barrières et de l'arrêter aux frontières. Hein. On se retrouve là vraiment dans des affaires qui sont américano-américaines.
Et avec des groupes extrêmement puissants et pour qui, évidemment, la tutelle fédérale est le cadet de leurs soucis la plupart du temps. Enfin,
Oui, une des difficultés, évidemment, c'est que lorsqu'on veut prendre des décisions de variation de la production en matière d'énergie carbonée, on peut le faire plus ou moins efficacement en Arabie Saoudite, on a des effets de levier qui sont moins directs en Russie et qui sont quasi inexistants aux États-Unis, où finalement la production s'opère via des mécanismes de marché assez classiques.
Mais c'est bien en Asie, et singulièrement en Asie du Sud-Est aujourd'hui, que se situe, non pas le rebond, mais l'envol des industries liées au charbon.
Oui, puisque dans les nouveaux émergents d'Asie du Sud-Est, donc au-delà du cas de la Chine, où finalement en Chine, la pression des populations et notamment des classes moyennes conduit à une politique qui, je cite mot pour mot, pas directement en chinois, mais dans une mauvaise traduction, qui consiste à rétablir le ciel bleu, qui dans la plupart des métropoles chinoises était invisible à peu près la moitié du temps. Donc il y a des problématiques de santé publique qui sont suraiguës, des évaluations de chercheurs tout récemment dans des publications donc de 2018 font état de 500 000 morts par an en Chine liées à l'usage du charbon et de 300 000 en Inde. Mais évidemment, ces considérations ne posent un problème de politique publique et n'exerce une pression sur le modèle politique localement que dès lors qu'il y a suffisamment de classes moyennes pour s'en préoccuper. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les pays émergents qui émergent autour, en Asie du Sud-Est, autour de la Chine. Et donc, eh bien là, l'accès à l'électricité et la montée en puissance, la montée en croissance des besoins d'électricité se nourrit assez classiquement par du charbon. Et une des craintes à l'avenir, c'est pour le dernier continent qui n'a pas encore émergé, en tout cas à son échelle globalement, qui est l'Afrique, et de savoir si l'Afrique, dans son accès à l'électricité, il y a tout de même de l'ordre de 600 millions d'Africains qui, à l'heure actuelle, n'ont pas d'accès à l'électricité, si cet accès à l'électricité se fera directement par des énergies décarbonées, notamment du photovoltaïque ou de l'hydroélectricité. Il y a un potentiel d'hydroélectricité en Afrique qui est absolument formidable. Ou s'il se fera, comme les autres émergents, par une combinaison de charbon et de fioul.
Éric Scholl, directeur de Courrier International, vous vous êtes intéressé à les contradictions, en quelque sorte, dans certains paradis asiatiques qui vivent en particulier aussi du tourisme et qui néanmoins souffrent de plus en plus de l'exploitation du charbon, en l'occurrence.
Oui, vous savez, on connaît Bornéo pour ses plages, sa beauté sauvage, ses forêts tropicales, mais sur cette île qui est située dans l'archipel malais et qui est partagée entre plusieurs États, eh bien, une partie des habitants vivent au quotidien un enfer depuis que plusieurs sociétés minières ont débarqué dans la partie indonésienne de l'île. Des journalistes du magazine Compass se sont rendus sur place et ils ont constaté à quel point l'extraction intensive du charbon pèse sur l'environnement, mais aussi sur la santé des habitants. Dans la région du Kalimantan oriental, la poussière noire du charbon se propage partout. Les particules ne se contentent pas de s'introduire dans les maisons, écrit Compass. Elles pénètrent aussi dans les voies respiratoires des villageois, au point que dans cette province, grande comme un quart de la France et où vivent 3,5 millions d'habitants, eh bien, la tuberculose est la maladie la plus répandue depuis 2014 et elle est en augmentation constante, indiquent les statistiques du département de santé. 4034 cas recensés en 2017, sans parler des pneumonies. L'autre grand fléau provoqué par l'extraction du charbon, eh bien, c'est le déboisement, synonyme d'inondation et de glissement de terrain. Le 29 novembre dernier, 5 maisons du village de Jawa ont été emportées et la route principale de cette région a été totalement coupée, racontent les journalistes. Or, ce village est situé à proximité de mines de charbon. Un peu plus loin, poursuit l'article de Compass, le village de Mularwaman est quant à lui littéralement avalé par les mines de charbon. Nombreux sont les habitants qui ont quitté leur maison et les ont vendus aux compagnies minières pour aller vivre ailleurs, car l'exploitation du charbon a détruit leur environnement, pollué les sources d'eau et dévoré pratiquement toutes leurs terres cultivables. Ils ne supportent plus non plus les explosions assourdissantes dans les mines alentours, écrivent les reporters indonésiens. Sans parler des mines illégales, de celles qui sont laissées à l'abandon et qui provoquent régulièrement des accidents, le gouvernement et les compagnies minières sont accusés de négligence, mais l'exploitation massive de ce qu'on appelle l'or noir de Kalimantan oriental se poursuit, au point, concluent les journalistes, que cette région, surnommée en langue Kutai, Bumi Etam, ce qui signifie « notre terre », va devenir, elle aussi, une terre de désastre.
Évidemment, quand vous élargissez le prisme géographique, on voit que c'est à l'échelle de l'Asie tout entière que oui. Le charbon est exploité.
Ben oui, effectivement, il y a un article récent du New York Times qui nous rappelle que l'Asie, où vit un habitant sur deux de la planète, concentre les trois quarts de la consommation de charbon à l'échelle planétaire. Et cette addiction au charbon n'est pas prête de cesser, puisqu'on y recense par exemple 1200 centrales à charbon en cours de construction ou à l'état de projet, que ce soit en Indonésie, au Vietnam ou au Japon, revenu au charbon depuis notamment la catastrophe de Fukushima. Mais évidemment, le vrai moteur à charbon s'appelle la Chine, même si, comme le rappelait Patrice Geoffron, la croissance et de la consommation ralentit. Mais là aussi, les chiffres font peur, comme le reconnaît Carlos Fernandez Alvarez, un analyste à l'Agence internationale de l'énergie, qui a été interviewé par le New York Times et qui nous dit « J'ai dû refaire le calcul trois fois, je croyais qu'il s'agissait d'une erreur. » En résumé, nous dit-il, la Chine représente elle seule la moitié de la consommation mondiale de charbon, une industrie qui fait travailler 4,3 millions de Chinois, et le déclin du charbon n'est pas d'actualité. Depuis 2002, nous dit le New York Times, la Chine a ajouté l'équivalent de 40% de la capacité mondiale de production du charbon. La Chine déploie son savoir-faire dans le charbon bien au-delà de ses frontières, puisqu'elle construit actuellement des centrales dans 17 pays, essentiellement en Asie. Autant dire qu'on est encore loin de l'abandon du charbon.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Jean-Baptiste Fressoz, quand on s'intéresse à l'économie des pays émergents, on imagine bien que du point de vue des dirigeants et des grands groupes internationaux qui sont à l'œuvre dans ces pays, le charbon reste une sorte de panacée pour accélérer le développement.
Et donc c'est une technique qui a fait ses preuves, quoi. C'est-à-dire depuis le temps qu'on l'utilise, on sait bien utiliser le charbon. Les systèmes électriques aussi ont été conçus pour accueillir ce genre de production énergétique, hein, avec un système centralisé qui se diffuse ensuite en réseau. Il y a des compagnies minières qui sont bien établies, qui sont d'ailleurs pas simplement asiatique. On a beaucoup parlé des responsables asiatiques, mais par exemple Glencore, c'est une entreprise de trading sur les matières premières en Suisse, gagne énormément d'argent grâce au charbon. Engie, une entreprise française, investit dans une centrale au charbon au Maroc. Donc je pense qu'il y a c'est sans doute évidemment en Asie où les choses se passent de fait de la croissance économique et de la population
tout simplement.
Mais c'est pas une. Voilà, il faudrait surtout pas rentrer dans un discours assez orientaliste où il y aurait des méchants asiatiques qui nous pollueraient l'atmosphère globale.
Oh, c'est pas le genre de la maison.
C'est pas du tout ça, non, bien sûr. Mais il y a un enjeu quand même, disons, d'organisation du capitalisme international sur ces questions de charbon et de matières premières. L'Australie, par exemple, je crois, est un des grands producteurs de charbon. Je vous demande, c'est même pas le premier producteur ou en tout cas exportateur de charbon au monde. Donc voilà, c'est sans doute beaucoup plus large simplement que la Chine et la volonté d'exporter des capitaux chinois.
Mais on voit bien que, en termes d'impact sur les populations, il y a toujours ce moment où le besoin en électricité l'emporte ou non sur les problèmes en termes de santé.
Locaux.
Oui, en termes de santé publique.
En même temps, le charbon, ça sert surtout à produire, enfin, ça permet de produire l'électricité, donc on peut transmettre sur de longues distances l'électricité. Donc on pourrait imaginer un système de production énergétique au charbon avec des usines un peu où on récupère l'essentiel de la pollution en particules, qui soit loin des grandes agglomérations. Donc malheureusement, j'ai peur que cet effet, disons, société civile qui agit pour son environnement ne soit pas suffisant. Et en tout cas, étant donné l'urgence à faire décroître les émissions de CO2 pour des raisons climatiques, c'est sûr que ça sera jamais assez rapide par rapport à ces enjeux-là.
Patrick Geoffron, au niveau du discours politique et des négociations internationales avec les mouvements d'accélération, ou en tout cas ceux que l'on croit tels, et puis, comme on l'a vu à la dernière COP24 en Pologne, au contraire, un espèce de fléchissement du volontarisme, jusqu'à quel point est-ce que la Chine en particulier s'est positionnée comme étant un champion de la régulation et donc un champion de la lutte contre le réchauffement climatique?
On a beaucoup parlé de l'Asie et de la Chine en relation avec le charbon, c'est le thème de l'émission, mais finalement on passerait sans doute à côté de l'essentiel si on n'évoquait pas le fait que dans le même temps, la Chine à vocation est en train d'en faire la démonstration, à prendre un leadership finalement dans toutes les filières d'énergie décarbonée. La Chine en a déjà fait la démonstration sur le photovoltaïque, elle est en train d'en faire la démonstration sur les batteries, sur les véhicules électriques, et la taille de son marché intérieur, et puis par ailleurs la capacité à faire de la politique industrielle, certains disent du dumping, sans doute avec raison, donne un pouvoir de déploiement dans ces technologies, dans ces nouvelles filières, qui confère un leadership presque mécaniquement, encore une fois, compte tenu de tous ces efforts. Et donc, de la même manière qu'on avait tort par le passé, jusqu'à un passé assez récent, de considérer simplement que la Chine était l'usine du monde et qu'elle avait vocation à déployer des technologies qui étaient celles de la génération moins 1 et que nous garderions... Non, la réalité des choses n'est pas du tout celle-là. On le voit dans le domaine des technologies de l'information avec la 5G, par exemple, à l'heure actuelle. Et donc, il faut avoir à l'esprit que la Chine continue sur la voie du charbon, alors dans un charbon qui est plus propre, si on peut dire, avec un meilleur rendement pour ce qui est des nouvelles centrales, avec également moins de pollution locale, parce qu'encore une fois, les chiffres que j'ai évoqués, potentiellement, dans le cadre des évaluations dont on peut disposer, 500 000 vies anticipées chaque année, même à l'échelle d'un grand pays de plus d'un milliard d'habitants, ça fait quand même beaucoup donc c'est un problème qui est un problème majeur. Donc cet ancrage dans le charbon est un ancrage qui sera durable, sans doute sur des moyens de production qui seront rénovés. Mais dans le même temps, il ne faut pas perdre de vue que les investissements dans les filières décarbonées sont des investissements qui sont massifs. Ce qui est d'ailleurs une vraie préoccupation pour nous Européens, qui sommes quelque part entre les Américains qui, tout en clamant le retour du charbon roi sans le faire et puis en développant les gaz et pétrole de schiste, sont très très puissants, notamment via le big data dans les technologies décarbonées, le renouvelable, Et puis, eh bien, la Chine, on vient de dire ce qu'on peut en dire. Et au milieu de tout ça, on a 27 ou 28 États qui sont à la fois pionniers compte tenu des engagements qui ont été pris par les Européens au milieu de la décennie dernière, mais qui déploient ces efforts d'une façon très fragmentée, comme 27, 28 transitions énergétiques assez peu coordonnées. Et donc, c'est on aurait tort de considérer que tout ce qui se passe en Asie relève d'une espèce d'économie grisâtre et que nous garderions la modernité avec, à l'avenir, les brevets, les emplois, la valeur ajoutée qui iront avec.
Non, on voit au contraire que la Chine est devenue le premier pays en nombre de brevets déposés et a dépassé les États-Unis.
Et en outre, cette économie grisâtre, elle se lie très bien avec l'économie des
batteries.
Jean-Baptiste Fressoz. L'économie des batteries, de la mobilité électrique. Le danger principal, ce qui nous pend sous le nez en termes de mix énergétique, ce serait un système basé sur le charbon qui produit l'électricité, qui sert à alimenter des voitures électriques, en fait. Si on se place dans une perspective où le pétrole coûte de plus en plus cher, ce serait ça la solution technique la plus simple, sans doute.
Et de ce point de vue-là, nous perdrions, en Europe en particulier, enfin on a déjà perdu en quelque sorte la maîtrise.
C'est-à-dire en fait ça transformerait les constructeurs automobiles européens en plieurs de tôle, vu qu'a priori c'est plutôt en Chine qu'il y a les savoir-faire sur la construction des batteries, etc. En tout cas que ces savoir-faire spécifiques aux moteurs à explosion ont beaucoup moins d'importance. Ouais.
Michel Dézé, je rappelle que vous êtes géographe, professeur à l'université de Lorraine, en Lorraine en particulier, mais je crois que vous avez travaillé sur le Pas-de-Calais. L'expérience douloureuse a été celle de la fermeture des mines de charbon, la difficile transition. Des bassins houillés, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que l'on fait des gens, des familles qui ont vécu dans cette culture de la mine? Selon vos études, jusqu'à quel point est-ce que il y a des exemples de reconversion qui ont bien fonctionné?
C'est-à-dire que si on doit dresser un bilan de la reconversion des bassins charbonniers, que ce soit d'ailleurs en France ou en Allemagne, même en Angleterre, le bilan n'est quand même pas très positif, hein, je dirais même pas globalement positif, dans le sens où, certes, on a quand même, par une politique des fois plus ou moins volontariste, on est parvenu à, à replacer des industries, hein, par exemple de l'automobile en France, c'est un cas classique, hein, parfois dans les bassins charbonniers ou d'autres types d'industries. Mais finalement, quand on fait le bilan, il est clair que tous les bassins charbonniers ont des données socio-économiques qui sont évidemment assez négatives, hein, par rapport à la moyenne nationale. C'est-à-dire si on regarde le taux de chômage actuel dans le cœur des bassins charbonniers, le taux de pauvreté, le niveau de formation de la population, on est presque tout le temps, hein, dans des niveaux, parfois le chômage sensiblement supérieur à la moyenne même régionale, hein, par exemple dans le cas de la Lorraine, et alors plus forte raison par rapport à la moyenne nationale. Par contre, pour les taux de pauvreté, évidemment, on est sensiblement au-dessus. Malgré d'ailleurs dans le cas de la Lorraine la présence en plus quand même de la frontière allemande qui permet à des frontaliers d'aller travailler dans la Sarre, qui est aussi un ancien bassin charbonnier mais qui a peut-être qui s'est un petit peu mieux reconverti en définitive. Donc on cite toujours, hein, des exemples, voilà, sur tel ou tel site où on a réussi en quelque sorte à réoccuper un ancien site minier ou industriel avec tel ou tel type d'activité. Il y a des exemples bien connus, que ce soit d'ailleurs dans le Nord-Pas-de-Calais ou même en Lorraine. On a mis en valeur aussi le patrimoine industriel, par exemple, hein, pour effectivement donner une certaine attractivité à certains sites. Mais si on regarde les choses, on fait une sorte de bilan par rapport à l'époque où il y avait l'exploitation du charbon, il est clair que quand même, en termes socio-économiques, hein, le bilan est quand même assez négatif. On n'a pas réussi véritablement, mais que ce soit en France ou en Allemagne, hein, à reconvertir complètement l'économie. Hein, les taux de chômage, même en Allemagne, dans un pays qui est, par exemple, avec un faible taux de chômage aujourd'hui de l'ordre de 5%, dans le cœur du bassin de la Ruhr, vous êtes à entre 8 et 10%, hein, donc deux fois supérieur à la moyenne nationale. Alors, avec évidemment des contrastes aussi à l'intérieur de ces bassins, entre vraiment souvent le cœur du bassin houillé et des zones périphériques, par exemple, qui à ce moment-là sont effectivement généralement en meilleure situation socio-économique.
Et donc tout cela, évidemment, nourrit une nostalgie qui peut paraître paradoxale, mais une nostalgie de la mine et une nostalgie de quoi ? De l'âge d'or du charbon.
Qu'on peut trouver, oui, dans une partie de la population, hein, effectivement. Alors c'est pas forcément, c'est un peu mêlé. C'est-à-dire c'est certainement une nostalgie par rapport à une époque où la situation socio-économique était meilleure, hein, en proportion qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc il peut s'exprimer parfois aussi dans des votes qui sont vers les extrêmes, hein, qu'on va trouver aussi donc en France ou même en Allemagne ou dans beaucoup de bassins charbonniers européens. Je crois que évidemment les situations peuvent être un petit peu différentes, hein, d'un endroit à l'autre, mais c'est quand même une tendance qu'on observe pratiquement partout, hein, qui est assez frappante.
Lola Valéjo, bonjour, on ne vous a pas encore entendu. Je rappelle que vous dirigez le programme climat de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Vous avez mené des études précisément sur des régions qui sont sorties du charbon, et je crois en particulier aux Pays-Bas. Racontez-nous ça.
Alors effectivement, nous avons mené un projet de recherche qui était à la fois en essayant de comprendre quelles leçons on peut tirer des transitions passées et comment est-ce qu'on peut imaginer les transitions à venir dans les grands pays qui utilisent du charbon, que ce soit pour en produire ou pour en consommer. Et que ce soit dans différentes géographies, on peut retrouver des points communs. Je pense qu'un des premiers points à noter, c'est d'abord que dans toutes les transitions passées, celles qui se sont mieux passées sont celles où l'État a joué un rôle important et s'est impliqué dans le processus. On peut citer plusieurs processus. Par exemple, dans les Pays-Bas, la région de Lindbergh, dans les années 60, a réalisé une sortie de l'activité de mine de charbon totale. Ou, par exemple, au Canada, la province d'Alberta, aujourd'hui, a entamé un processus, de même qu'en Allemagne, dont vos invités ont déjà parlé, pour sortir du charbon. L'État doit jouer un rôle important pour, par exemple, donner de la clarté à l'ensemble des acteurs et quelque part remettre de la confiance au cœur du processus. Puisque,
oui, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement ?
Concrètement, ça veut dire qu'il faut donner un calendrier de fermeture pour permettre que les activités se ralentissent de manière progressive. Et finalement, comme on sait qu'il va y avoir des impacts sociaux potentiellement extrêmement importants, il est important de donner de la visibilité et de préparer le plus rapidement possible cette transition. C'est-à-dire cesser le recrutement et la formation de nouveaux travailleurs et accompagner progressivement les travailleurs les plus âgés dans une retraite anticipée. Et on sait que plusieurs études montrent que le rôle de ces décideurs est vraiment très important pour créer des autorités de transition qui permettent de remettre de la confiance dans ce processus, puisque ça a été noté aussi, je crois, par vos autres invités. Il y a beaucoup d'expériences où ces transitions ont donné à de graves crises, puisque les compagnies minières impliquées revenaient sur des accords qui étaient conclus. Et donc, il est vraiment important que la puissance de l'État permette de redonner de la légitimité et quelque part apporter une contrainte au plan de fermeture et de gestion du personnel.
Mais on sait que c'est le cas en France en particulier, où il y a 4 ou 5 centrales de charbon qui sont vouées à fermeture en Loire-Atlantique et dans les Bouches-du-Rhône. Et là, semble-t-il, les personnels sont très inquiets et ne comprennent pas bien précisément quelles sont les perspectives proposées tantôt par l'EDF, tantôt par un autre opérateur.
Non, tout à fait. Ça montre bien que quel que soit le profil, c'est forcément des situations de transition et donc de tension. Donc, il faut peut-être rappeler aussi que c'est pas quelque chose de propre à l'industrie du charbon et ça se retrouve dans beaucoup d'autres industries. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est que dans certaines régions, et c'est pas le cas forcément dans les Bouches-du-Rhône ou les régions en France que vous avez citées, il peut y avoir une dépendance très forte sur une seule activité liée au charbon. Et donc dans ces cas-là, c'est vraiment important d'arriver à anticiper sur une diversification économique. Évidemment, en regardant différents contextes, on se rend bien compte que c'est impossible d'avoir une solution unique, à part rappeler les principes de nécessité d'avoir un dialogue à différents niveaux, que ce soit au niveau national, régional, mais aussi et surtout en impliquant très fortement les syndicats de travailleurs. Et je pense qu'il y a plusieurs exemples qui sont assez encourageants de ce point de vue-là, puisque que ce soit dans la région d'Alberta, dont je parlais plus tôt, ou en Espagne, cette fois au niveau national, on a eu des accords multipartites qui ont été conclus et qui à chaque fois se matérialisent aussi par des fonds de transition assez importants, donc 250 millions d'euros pour l'Espagne ou 30 millions d'euros pour la région d'Alberta pour sortir à des échéances très courtes, 2023 en Espagne, donc c'est-à-dire demain. Des activités de production du charbon.
Jean-Baptiste Fressos, vous êtes historien. Dans l'histoire des techniques, est-ce qu'il y a des exemples où on a abandonné progressivement, bien sûr, telle ou telle technique ou telle forme d'énergie en réussissant, en quelque sorte, en réussissant cette transition aussi sur le plan humain et pas seulement sur le plan des méthodes.
Alors, si on prend l'exemple de l'énergie, on a des exemples de pays qui ont massivement réduit leurs émissions de CO2 au cours du temps, mais il y en a très peu en fait. Et c'est souvent des exemples assez déprimants.
C'est-à-dire
Ça va par exemple être l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, la Corée du Nord et Cuba après la chute de l'Union soviétique. Là, on a des réductions massives d'émissions de CO2 de l'ordre de ce qu'il faut faire en fait. C'est-à-dire, il y a quelque chose, tout ce qui nous rassemble quand même. Enfin, si on parle de charbon, c'est à cause du climat essentiellement. Et ce que nous disent les climatologues, c'est qu'il faut réduire de 3/4 les émissions de CO2 avant 2050 pour pas dépasser 2 degrés en 2100. Donc, il faut en fait soustraire quasiment 3/4 de 80% de notre mix énergétique global.
Donc c'est vraiment
C'est une amputation majeure en fait, plus qu'une transition énergétique qu'il faudrait faire. Et des exemples.
C'est une amputation énergétique, voilà. C'est pas une transition.
Il me semble que si on veut être vraiment, si on regarde simplement les chiffres que nous donnent les climatologues, oui, il faut vraiment faire quelque chose de beaucoup plus radical et évidemment difficile qu'une transition qui paraît très doux et qui est d'ailleurs une manière d'euphémiser en fait ce qu'il faut faire. Et des exemples vraiment qui ressemblent un petit peu à ça, il y en a très très peu, et c'est plutôt des pays en crise en fait, qui sont privés tout simplement par exemple du pétrole bon marché soviétique en 92, Cuba et la Corée du Nord ont été privés d'un pétrole subventionné, ce qui a posé évidemment tout un tas de problèmes, beaucoup plus d'ailleurs en Corée du Nord qu'à Cuba pour différentes raisons. Mais des exemples vraiment, disons, intéressants, qui ressemblent à ce qu'il faut faire, il y en a à mon avis très peu. Par exemple, la France qui a fait le choix du nucléaire, ce qui explique pourquoi on a si peu de charbon, on n'a que quelques pourcents du mix énergétique qui est lié au charbon. Malgré ce choix du nucléaire à partir des années 70, les émissions de CO2 en France continuent de croître. Alors, elles croissent moins vite que s'il n'y avait pas eu le nucléaire, mais elles continuent de croître, bon an, mal an, de 1-1,5% par an des années 70, 80, 90. Donc, même ça, c'est pas un exemple satisfaisant par rapport à l'enjeu climatique.
Patrice Lefons, donc cela veut dire que les seules méthodes qui pourraient susciter un tout petit peu d'optimisme, ce sont les énergies renouvelables. C'est d'espérer que ces énergies-là progressent et qu'on puisse soit les stocker, soit les distribuer, soit les exporter, et que tout cela se fasse à des coûts moindres que les énergies fossiles existantes.
Oui, je voudrais prolonger ce que vient de dire Jean-Baptiste Fressos pour confirmer qu'effectivement, il n'y a pas d'exemple de modifications rapides qui s'opèrent dans un environnement qui soit régulé et qui aille vers le progrès. Par exemple, il y a une année qui est une année extrêmement intéressante, qui est l'année 2009, durant laquelle on observe globalement une baisse des émissions de CO2, mais tout simplement parce que c'est une année de grande crise depuis pas loin d'un siècle. Et donc, effectivement, une grande crise, les usines ferment, les gens sont au chômage.
Donc une crise
bien,
financière, au départ.
Voilà, on comprend bien que ça peut tout à fait concourir à faire diminuer les émissions de CO2. Mais évidemment, c'est pas ce vers quoi on veut aller. Et donc, une situation dans laquelle on parviendrait... Donc, pour avoir un ordre de grandeur, citons deux, trois chiffres. Aujourd'hui, on est à peu près, pour ce qui est des émissions de CO2 liées à notre modèle énergétique, au niveau mondial, on est à peu près à 35 milliards de tonnes. Il faudrait, si on veut être à 1,5 degré, et c'est important d'être à 1,5 degré plutôt que 2 degrés, même si aujourd'hui, ça paraît totalement invraisemblable, il faudrait être quelque part entre 5 et 10 milliards de tonnes de CO2 en 2050. Donc, divisé à peu près par 3. Si on parvenait à faire ça, faisons l'hypothèse qu'on parvienne à faire ça, à ce moment-là, on serait en 2050 dans un monde où le PIB mondial, donc la création de richesses telle que la mesure, bêtement les économistes, mais enfin c'est la manière dont on procède, la création de richesses annuellement, en 2000, le niveau d'émissions de CO2 sera équivalent à celui de 1950, un siècle plus tôt, et entre-temps le PIB mondial devra avoir été multiplié par 10.
Avec une démographie.
Et la population mondiale aura été multipliée, disons, par 3,5 à peu près. Voilà, donc on a une rupture de ce que les économistes, et j'en suis un, appellent le modèle économique mondial, le modèle macroéconomique mondial, et qui procède du fait que, depuis deux siècles, on crée de la valeur économique en émettant du CO2. Les émissions de CO2 étaient à peu près, les émissions étaient à peu près à zéro, les émissions nettes. En 1800, on est aujourd'hui à 35 milliards de tonnes. Et entre-temps, le PIB mondial, il a été multiplié par 100. Donc c'est une formidable machine à créer de la richesse. Et c'est cette machine qu'il va nous falloir transformer, et pas transformer en 2100 ou en 2200. Non, il faut la transformer entre maintenant et 2050. La réalité de l'accord de Paris, c'est ça.
Et la transformer sans infliger de déperdition de richesse.
Alors, en infligeant des déperditions de richesses et de manière chaotique, on saurait faire, mais en tout cas, ce à quoi on s'affaire, c'est à essayer de trouver des solutions, notamment qui puissent s'accompagner, on peut revenir 15 secondes à l'Afrique, à un accès en Afrique à l'électricité qui se fasse encore une fois sur un modèle nouveau, c'est-à-dire sans passer par la case dans laquelle on aurait un couple entre le charbon et le fioul.
On voit que le Kenya en particulier essaie de miser sur la géothermie.
Dans l'est de l'Afrique, il y a beaucoup d'expériences qui sont tout à fait intéressantes. Le potentiel à la fois de géothermie, le potentiel d'hydroélectricité, mais également et surtout le potentiel de modèles nouveaux qui sont des modèles totalement décentralisés à base de photovoltaïque sont tout à fait prometteurs. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'en Afrique, on observe finalement ce qui s'est passé en matière de télécommunications, où les Africains se sont mis à adopter, sans passer par la case de la téléphonie fixe, des modèles extrêmement intéressants, très innovants d'usage de la téléphonie mobile. Et il faut espérer qu'ils parviendront. Et ça dépend assez largement, notamment des transferts financiers qui sont prévus dans le cadre de l'accord de Paris. 100 milliards de dollars par an à partir de 2020.
Et donc ça... Et ces transferts financiers ont-ils été enclenchés ?
Non, alors ça fait partie des discussions qui sont en cours, sur lesquelles des avancées auraient dû être enregistrées à Katowice, ça n'a pas été bouleversant de clarté. On estime aujourd'hui qu'on est à peu près à deux tiers des engagements qu'il nous faudra tenir à partir de 2020 et qui sont essentiels pour la crédibilité de l'accord de Paris, évidemment.
Sauf que la comparaison avec la téléphonie filaire ou sans fil, elle est un petit peu dangereux, je pense, parce que l'énergie, c'est pas du tout la même chose, à mon avis, que les technologies de la communication. Là, on a l'impression que les techniques changent très vite avec les derniers téléphones portables, etc. Mais si on regarde les choses d'un point de vue matériel, en termes de quantité de matière, ce qui importe vraiment pour le climat, finalement, les techniques, ça change pas. C'est-à-dire, on consomme toujours autant, si ce n'est plus de matériaux, des matériaux plus compliqués, etc. Donc, je crois qu'il faut...
Mais parfois en moindre quantité. Par exemple, les matériaux comme les terres rares, etc.
Oui.
Ce sont de petites quantités, certes très chères à extraire ou à produire.
Voilà, c'est-à-dire c'est sans doute des petites quantités, mais vu qu'il y a un effet rebond énorme, et en plus que pour extraire ces terres rares, il faut extraire des quantités absolument gigantesques de minerais au départ, en termes d'énergie et d'émissions de CO2, c'est bien pire en fait. Donc je crois qu'il faut faire attention à ces comparaisons avec, une fois encore, c'est le point que je faisais au départ. Si on regarde les systèmes techniques, si on regarde simplement les techniques, on a l'impression que ça évolue très vite. Si on regarde la matérialité des techniques, on voit pas d'évolution. On voit qu'une évolution vers plus, plus et encore plus. Quoi.
Plus et une stratification, une superposition.
Non, ce qui se joue en Afrique, évidemment, ça n'est pas la capacité via du photovoltaïque à avoir de l'électricité telle qu'on la consomme aujourd'hui en France et singulièrement dans l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. Donc la question, c'est vraiment de passer de zéro accès à l'électricité à un peu d'accès à l'électricité. Et ça peut se faire aujourd'hui dans des conditions de coût qui sont acceptables pour grimper le premier degré simplement de l'accès à l'énergie et notamment se substituant à d'autres types d'usages à base notamment de fuel à l'heure actuelle et puis de petites motorisations.
Et à partir de là, on peut avoir des comparaisons historiques qui me semblent plus pertinentes. Par exemple, aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, il y a 6 millions d'éoliennes qui tournent et qui alimentent, en fait, qui permettent l'irrigation du Midwest américain. C'est une transformation énorme du monde agricole et même du système agricole mondial. Dans les années 20, l'électrification, elle se fait par le biais de ces éoliennes qui alimentent des petits dynamos et des batteries. Ça permet de faire marcher une radio, par exemple. Et c'est seulement dans les années, c'est après le New Deal, en fait, qu'il y a des campagnes d'électrification qui vont relier les campagnes avec des centrales thermiques, etc. Mais il faut bien imaginer que le monde en fait, économique, jusqu'à assez tard, c'était un monde qui était fondé fondamentalement sur les renouvelables. Et c'était un monde où il y avait eu quand même de la croissance et du développement. En tout cas, il y avait des biens culturels, etc.
Et donc, Patrick Geoffroy, il faudrait redécouvrir les renouvelables, ce sera le mot de la fin. Et est-ce que le solaire, en particulier, se développe plus vite et mieux qu'on ne l'imaginait ?
Alors, plus vite et mieux et à moindre coût qu'on ne l'imaginait, de manière suffisante pour faire l'espèce de looping que je décrivais et aboutir à cet effondrement, il n'y a rien qui permette de l'effondrement des émissions de CO2 entre maintenant et la moitié de ce siècle. Il n'y a rien qui ne permette de le dire à l'heure actuelle. Notamment parce que fondamentalement, ces filières énergétiques qui se développent très rapidement, et encore une fois pour le photovoltaïque, à des coûts qu'on n'anticipait pas au milieu de la décennie dernière, donc c'est tout à fait positif de ce point de vue, mais ramené encore une fois à la masse des besoins, on reste encore assez largement dans l'épaisseur du trait. Et puis l'autre difficulté, elle procède du fait que schématiquement la nuit il n'y a pas de soleil et donc sans système de stockage ou sans appel en réserve à des centrales thermiques, notamment au charbon, eh bien on se retrouve avec des systèmes évidemment qui sont des systèmes instables et qu'il est difficile d'imaginer de faire fonctionner uniquement sur la base de renouvelables, en tout cas à l'aune de la prochaine décennie.
Et donc, il faut espérer que le génie humain invente quoi, de nouvelles technologies très vite pour accélérer en quelque sorte ces mutations.
Jean-Baptiste
Fressoz, rapidement.
Non. En gros, ce que je disais, c'est qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique au niveau global. Donc, a priori, il y a peu de chances que d'un seul coup, une nouvelle technique remplace d'un seul coup un système énergétique. C'est franchement très, très, très improbable.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci à vous, donc, Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences. Vous avez publié L'Apocalypse joyeuse au Seuil en 2012. En 2012, c'est peut-être moins joyeux depuis. Vous avez co-publié avec Christophe Bonneuil L'événement Anthropocène, la Terre, l'Histoire et nous au Point Seuil en 2016. Merci bien sûr à Patrice Geoffron. Vous avez notamment publié avec Jean-Marie Chevalier Les nouvelles guerres de l'énergie, bataille pour le climat, friction géopolitique chez Erol en 2017. Merci aussi à Michel Day, géographe et professeur à l'Université de Lorraine, qui a notamment publié Atlas de l'Allemagne, les contrastes d'une puissance en mutation. Et je remercie bien sûr Lola Valéjo, dont l'IDRI, son institut, donc publie de nombreux rapports liés à toutes ces problématiques. Merci à Eric Scholl, bien sûr, à Luc-Jean Reynaud à la réalisation, Dalia à la technique, Meryl Moneghetti mettra comme d'habitude la bibliographie indispensable sur notre site et comme chaque samedi, vous avez rendez-vous maintenant avec Hervé Gardette. Très bon week-end.